Nous sommes avec deux invités, Evelyne Sein, bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de l'association Désir de lire, plus exactement, vous êtes présidente et fondatrice. Vous allez nous en dire davantage. Et cette association, pour la deuxième année, propose une résidence. Et cette année, eh bien, c'est le romancier Arnaud Bertina, bonjour.
Bonjour.
Vous allez donc nous parler à la fois de votre œuvre, notamment des deux derniers romans que vous avez écrits. Et nous allons prendre aussi le temps eh bien, de parler de cette résidence en tant que telle. Alors pour rappel, ces deux derniers romans, eh bien, ils datent de 2020 et de 2021. Le premier, c'est L'âge de la première passe aux éditions verticales autour de mineurs n'ayant pas d'autres ressources que la prostitution au Congo, un récit documentaire, mais on reviendra sur cet aspect de récit documentaire, où vous... Deuxième roman, donc, de 2021, « Ceux qui trop supportent le combat des ex-GM et S », c'est un récit documentaire, encore une fois, autour d'une lutte dans une usine à la souterraine dans la Creuse. Vous êtes aussi collaborateur de nombreuses revues littéraires. On vous entend aussi régulièrement à la radio, notamment sur France Culture. Alors tout d'abord, Evelyne Sein, quelques mots sur cette association. Et comme je le disais, c'est la deuxième résidence. L'année dernière, c'était Laurence Villaine, romancière, qui était aussi venue au micro de cette radio pour nous parler de sa création littéraire et de son futur roman et de ses anciens romans aussi. Cette année, c'est donc Arnaud Bertina.
L'association s'est donnée comme objet de parler, de faire parler de la littérature d'aujourd'hui et de la mettre en relation aussi avec d'autres disciplines artistiques. Et pour ce faire, on a deux types d'actions. La résidence dont on va parler plus spécialement aujourd'hui, effectivement, mais aussi des journées littéraires qui sont organisées tout au long de l'année avec des auteurs, des éditeurs et des traducteurs. Donc effectivement, la résidence cette année, nous avons invité Arnaud Bertina, que nous connaissons depuis longtemps et dont nous apprécions le travail depuis longtemps aussi. Et il est en résidence donc à Sigons, au cœur du village.
Et par rapport à cette résidence, comment vous l'avez pensée, comment vous l'avez organisée?
Alors l'idée de le dispositif de la résidence, c'est un dispositif qui est censé permettre à l'invité de travailler sur un projet de création personnelle qui normalement constitue la plus grande partie de son temps. Et puis il y a une partie de médiation culturelle, c'est-à-dire d'action sur le territoire, de rencontres avec les publics qui peuvent prendre des formes très très différentes. Pour nous, Désir de lire, nous avons souhaiter laisser vraiment toute liberté à Arnaud, puisque nous le connaissons bien, pour qu'il propose son projet de création. Il va en parler évidemment bien mieux que moi, mais c'est un projet qui est en lien avec le territoire et c'est tout à fait intéressant de cette manière-là. Donc c'est une résidence qui dure 2 mois, mais fractionnée par quinzaine, donc jusqu'au début du mois de juillet.
Par rapport à cette résidence, c'est une résidence d'écriture, donc de création, Arnaud Bertina.
Oui, ça c'est la chance. En fait, en France, il y a toutes ces possibilités-là qui sont offertes aux artistes d'être en résidence. Ce sont les collectivités qui invitent ou les associations qui invitent à venir en résidence. Et c'est une forme de mécénat, en fait. C'est de l'argent public qui est redistribué aux artistes pour leur permettre de trouver un peu de temps, un peu de concentration. C'est-à-dire que le reste du temps, quand on est chez soi, on est souvent un peu étranglé en termes de temps de travail par les tâches alimentaire, quoi. Et donc c'est le soir qu'on peut se remettre à ses projets personnels. Enfin bref, c'est une bagarre, quoi. C'est une bagarre très concrète en termes d'agenda et d'argent. Et donc il y a heureusement ces moments de respiration que sont les résidences. C'est des respirations à double titre. D'abord parce que voilà, tout d'un coup, il y a une petite bourse qui permet de laisser tomber les tâches alimentaires pendant un temps. Mais c'est aussi une respiration parce qu'on est invité à sortir de chez soi, à quitter ses habitudes, à quitter son quotidien et puis à découvrir un autre lieu. lieu. Alors ça peut être des fois dans des cadres très enthousiasmants comme là à Sigon, ça peut être des fois dans des cadres plus durs, mais ça reste intéressant de toute façon parce que on découvre d'autres logiques, d'autres personnes, d'autres façons de vivre, etc. Et donc moi je sais que à chaque fois ça me nourrit vraiment beaucoup, et alors les retombées sur le travail sont pas toujours évidentes à constater tout de suite, mais elles sont là, c'est obligé, puisqu'on gagne en épaisseur de vie, on gagne en curiosité, et donc c'est évident que ça infuse ensuite dans le travail du texte.
À noter que cette résidence d'écriture donnera lieu à un court-métrage et non pas un roman, ou peut-être un roman, mais... Ce n'est pas l'idée principale, en tout cas.
Non, voilà, cette fois-ci, en fait, bon, c'est un petit peu long de raconter l'ensemble de la chose, mais depuis 10 ans, j'ai un sujet de film que j'aimerais tourner. Pourtant, j'ai aucune envie de devenir réalisateur, donc j'attendais qu'une opportunité se présente, j'attendais que d'amis travaillant dans le cinéma s'intéressent à ce projet-là. Et puis, en fait, c'est la main tendue de désir de lire qui m'a donné la possibilité de me mettre à y travailler. Et le résultat, le projet s'est beaucoup transformé. C'est-à-dire qu'au départ, c'était juste un documentaire que je voulais faire sur Jack London, une sorte de documentaire. Et maintenant, en fait, c'est à part égale à la fois un travail sur l'œuvre de Jack London et sur les habitants de Sigons et des alentours. Les alentours au sens large, ça peut être dans un périmètre de 30 km autour de Sigons, par exemple. Mon idée, elle est à la fois un petit peu saugrenue et puis en même temps je la crois quand même pertinente. Quand on regarde la totalité de l'œuvre de London, qui est une œuvre vraiment foisonnante, hein, il est mort très jeune, il est mort à 40 ans, mais il a eu le temps d'écrire énormément. On est sidéré par son acuité, l'acuité de son regard sur les questions politiques, sur les questions sociales, mais aussi sur le fait qu'il a tenté beaucoup de choses du côté de l'écologie dans son immense propriété qu'il a pu acheter au fil des années grâce au succès de ses livres. Il a tenté plein de choses, par exemple comment économiser l'eau, comment ne pas la gaspiller, enfin, etc. Il a beaucoup réfléchi à ces questions-là autour des années 1900-1910, ce qui fait de lui une sorte de précurseur sur ces questions-là. Et donc j'avais envie de montrer à la fois l'actualité incroyable de cette œuvre et de montrer que au quotidien, elle peut entrer en résonance avec ce que tentent plein d'acteurs sur le territoire, c'est-à-dire comment vivre mieux ensemble, quelle forme politique nouvelle inventer, quel rapport différent à la terre mettre en place ou au monde animal. Et donc là, je sais que dans certains territoires, voilà, il y a ces belles synergies là où beaucoup de gens sont d'accord pour essayer de réinventer un peu de la vie en commun. Et je crois que c'est le cas là dans les Alpes de Haute-Provence à différents endroits, et donc c'est à la rencontre de ces gens-là que je cherche à aller, et je voudrais faire entendre leurs engagements et en même temps en parallèle rappeler celui de Jack London.
Donc c'est un regard croisé. On est donc dans la fiction documentaire, dans le documentaire fictionné, je sais pas comment
un petit peu les deux, un petit peu les deux, ouais. Mais les gens que je vais rencontrer joueront leur propre rôle, c'est-à-dire je vais pas leur écrire leur texte, ce sera vraiment pour essayer de les amener à dire ce qui les motive et de les amener à décrire en fait tout ce qu'il y a de généreux dans certains types d'engagement, quoi. C'est-à-dire que en ce moment en France, le débat public est parfois d'une qualité horrible, notamment autour de la présidentielle, avec tout un discours d'extrême droite qui est un discours de fermeture, d'hostilité permanente, un discours d'aigreur. Or, en fait, quand on fait parler les gens, quand on va à la rencontre d'initiatives locales, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de générosité dans la vie de certaines personnes, et cette générosité-là, elle a pas son mot à dire dans les médias principaux. Et donc moi, c'est ça que je veux essayer de contrebalancer à ma mesure, c'est-à-dire je veux au contraire faire entendre, montrer que il y a de la générosité qui est en circulation. Il y a des gens qui essayent de réfléchir comment est-ce que la vie pourrait être plus douce, moins trempée d'acrimonie, de fantasmes et d'angoisses fantasmées. Et en fait, là, quand je tiens ce discours-là, c'est aussi en étant capable de le raccorder à ce que j'écris le reste du temps, qui sont des fictions. Là, vous avez cité tout à l'heure les deux récits documentaires, mais Mes livres précédents, mes livres d'avant, c'était des fictions.
Oui, parce qu'il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités.
Il y en a pas mal, ouais.
Je n'ai pas fait la liste.
Et en fait, dans ces fictions, à chaque fois, même quand je m'empare de sujets durs, de situations de vie compliquées, c'est toujours avec l'idée d'essayer de montrer des brèches, de montrer des... qu'il y a encore du possible. Et je crois que les livres que j'écris sont des livres résolument optimistes, même quand, par exemple, ce sont des, même quand je parle de la situation de ces jeunes filles au Congo, par exemple, dans l'âge de la première passe, eh ben, ça reste un livre dans lequel j'essaye d'être attentif à ce que ces filles pourraient réussir à obtenir de la vie. Ce sont pas des livres d'accablement. J'essaye toujours d'être attentif à la vitalité qui est peut-être souterraine à certains moments, mais qui est quand même là.
Souterraine et aussi un réel travail de terrain, puisque votre résidence, et comment vous en parlez, fait vraiment écho aussi à vos deux derniers livres, c'est-à-dire que vous êtes vraiment à la rencontre des gens sur le terrain et dans ce qu'on peut construire en commun.
Oui, exactement. En fait, alors je le redis, normalement je suis romancier, c'est-à-dire j'écris des fictions. Mais et effectivement, il s'est trouvé que entre 2014 et aujourd'hui, deux fois de suite, je me suis trouvé à faire des récits documentaires, donc sur la Creuse et sur le Congo. Et à chaque fois, ce qui m'intéressait, c'était de non pas de donner mon point de vue, par exemple sur ces jeunes filles au Congo ou sur ces ouvriers creusois qui travaillent à la souterraine dans une usine d'emboutissement. À chaque fois, en fait, j'ai été surpris par l'intelligence en circulation dans ces groupes-là. L'intelligence de l'ONG qui essaye d'arracher ces jeunes filles à la prostitution, l'intelligence de ces 250 ouvriers qui se battaient pour conserver leur travail et leur usine. Et donc, à ce moment-là, je me dis, je n'ai pas quelque chose à leur apporter. Je n'ai pas des explications ou des solutions à leur apporter. En revanche, je constate qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce qu'ils m'expliquent, et donc je vais juste essayer d'être le relais de cette intelligence. Je ne vais pas me l'approprier. Je vais essayer de montrer à quel point ces gens-là, qui sont conspués souvent par les médias, qui sont moqués ou insultés par des élus, y compris par le président de la République, je vais montrer que la représentation qui est faite de ces groupes-là, c'est une représentation mensongère et injuste, en fait. Et donc, pour les Creusois, les GMS, j'avais très à cœur de leur passer la parole, de restituer vraiment leur parole, sans tricher avec leur façon de parler, etc., et de montrer à quel point ils étaient surprenants dans leur façon, dans la capacité qui est la leur, à articuler leur situation précise en Creuse, la situation, la vie de leur usine, et... l'économie mondiale, la situation, le contexte économique mondial. D'être capable comme ça de toujours relier, par exemple, la fin de l'emploi en France à un contexte économique mondial, je trouve ça très impressionnant, quoi. C'est vraiment une preuve d'intelligence. C'est-à-dire on est capable d'aller dans le singulier, l'infiniment petit, et puis de dézoomer, puis de voir les macrocosmes. Donc voilà, à chaque fois, pour moi, écrire ces bouquins-là, c'est une façon de rendre justice ou de dire même ma gratitude pour des gens qui sont capables d'être à la fois très généreux et très intelligents.
Et dans votre travail d'écriture, vous êtes dans la restitution de paroles en tant que telle, ou il y a aussi une part fictionnelle? Comment ça se passe?
Alors non, pas dans ces deux livres-là, il n'y a pas du tout de fiction, il n'y a pas de trace de fiction du tout, c'est vraiment plutôt de l'ordre un petit peu de l'enquête, et effectivement de la restitution de parole. Par exemple, au Congo, je faisais parler ces jeunes femmes sur ce qui leur était arrivé, sur l'abandon par les parents, le début de la prostitution, les violences des hommes, la pauvreté, et ça pouvait être des textes qu'elles m'écrivaient, ou alors c'était le résultat d'entretien que je menais avec elle, et ensuite avec leur accord, je reprenais ces textes et j'en faisais une sorte de recueil. Mais pour le Congo, je ne me suis pas contenté de simplement republier ces textes écrits par ces jeunes femmes. J'ai voulu aussi raconter comment ces textes ont été écrits, c'est-à-dire comment j'ai vécu avec elles pendant plusieurs mois sur place et quelles relations de confiance j'ai réussi ou pas à mettre en place avec elles. essentiel, puisque c'est évidemment c'est l'enjeu, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas demander à quelqu'un de raconter ce qui lui est arrivé de plus dur, de plus déchirant sur le plan des émotions, sur le plan affectif, si d'abord on construit pas une relation de confiance, si d'abord elle a pas, elle est pas sûre d'être face à quelqu'un qui sera respectueux de sa douleur, respectueux de son histoire, etc. Oui, donc dans ce livre-là, j'ai prouvé le besoin de à la fois passer la parole à ces jeunes femmes, mais aussi raconter notre quotidien ensemble.
Sur votre méthodologie justement de travail, vous procédez, vous venez de l'évoquer par entretien. Dans cette résidence, c'est la même chose. Vous prenez du temps pour rencontrer des gens sur le territoire.
Oui, exactement. Effectivement, là, je commence des séries d'entretiens et j'aime bien maintenant que ces entretiens soient un petit peu longs. Vous savez, il y a cette femme, Svetlana Alexievitch, qui a eu le prix Nobel de littérature en 2015, qui n'a écrit que des livres d'entretiens, enfin, nourris par des entretiens. Et elle dit cette chose magnifique. Elle dit, quand je me lance dans un entretien avec quelqu'un, il faut que ça dure peut-être une après-midi, peut-être une journée complète. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord, et c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour nous aussi, il faut d'abord arriver à se purger de la banalité qu'on a en nous, avant d'arriver à des strates beaucoup plus individuelles, beaucoup plus personnelles, d'émotions, etc. C'est-à-dire que c'est, quand vous me passez la parole, si vous me demandez de commenter l'actualité, je ne vais faire que redire ce que j'ai entendu au café, ce que j'ai entendu à la radio, à la télé, etc. Et c'est seulement au bout de 2 ou 3 heures, une fois que j'aurai fait le tour comme ça de toutes les idées les plus convenues que j'ai dans la tête par la force des choses, que peut-être j'en viendrai à dire quelque chose de plus curieux, de plus bizarre, de plus personnel. Et donc j'aime bien maintenant que les entretiens soient longs. Quand on fait un micro-trottoir à la télé, les gens disent des banalités, et si par contre vous restez une heure avec, là vous êtes surpris, vous constatez que les gens sont beaucoup plus intelligents que ce qu'on dit d'habitude, mais en fait c'est lié à la forme du premier entretien, quoi. Quand vous laissez 2 minutes à quelqu'un, bah ouais, il dit des bêtises, quoi.
Et ces entretiens, vous les enregistrez ?
Oui, alors quand les gens l'acceptent, effectivement, je les enregistre. Je peux même des fois, quand ils l'acceptent, les filmer. Et c'est une très bonne base, vous savez pourquoi ? Parce qu'ensuite, quand je rentre chez moi et que je cherche à retranscrire ces entretiens, en fait, je vais peut-être dans un premier temps garder des entretiens que ce que j'ai compris tout de suite. Mais en fait, c'est fantastique, 2 ou 3 mois ou 6 mois ou 1 an après, de réécouter l'entretien et de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on a laissées de côté qui sont en fait absolument passionnantes. Et dans ce cas-là, on revient sur la première saisie, sur la première transcription, et puis on ajoute ce qui, sur le moment, ne nous avait pas semblé intéressant et qui, en fait, l'est beaucoup. Donc oui, c'est un document magnifique de pouvoir enregistrer. Et par exemple, au Congo, je n'ai pas pu le faire parce que je voulais que les filles me fassent confiance. Or, elles pouvaient tout à fait me soupçonner ensuite d'utiliser ces enregistrements contre elles, etc. Elles sont habituées à être maltraitées, donc c'était normal qu'elles soient méfiantes. Donc au Congo, ça m'a beaucoup, beaucoup manqué. Parce qu'en fait, résultat, quand je faisais des retranscriptions, c'était ma langue à moi, c'était ma façon à moi de parler. Alors que ce qui aurait été précieux, ça aurait été justement de pouvoir restituer exactement les mots choisis par elles.
Parce que là, vous avez pris des notes, c'est ça ?
Voilà, c'était que de la prise de notes. Et donc obligatoirement, ensuite, c'est ma langue et non pas exactement la leur. Ce sont leurs idées et leurs récits, mais c'est ma langue. Donc c'était, pour moi, c'était un crève-cœur. Mais c'était nécessaire de faire cette économie-là. Mais sinon, le reste du temps, oui. Donc par exemple, là, ici à Sigonce, je vais essayer de multiplier les possibilités d'enregistrement pour ensuite avoir... Vous savez, quand quelqu'un se tait, si ça dure 3 secondes ou si ça dure 30 secondes, ça change énormément de choses. Et donc, si ça dure 3 secondes, je peux ne pas en tenir compte et je peux ne pas parler de ce silence-là. En revanche, s'il y a eu un silence de 30 secondes entre nous dans son témoignage, là, je suis obligé de le noter. Je suis obligé de dire que là, il s'est passé quelque chose. Donc oui, c'est très précieux d'être très respectueux du rythme des personnes, des mots choisis par elles. Les mots ont toujours un sens qui les dépasse. Et donc, quand une personne décide de dire tristesse et non pas accablement, quand elle décide de dire joie et non pas plaisir, ben, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Et donc, il ne faut pas ensuite, dans la retranscription, utiliser un autre mot, quoi. Il faut essayer de coller le plus possible à ce que la personne a confié.
Et vous avez commencé ces entretiens sur le territoire de Sigonce ?
Non, ça fait juste une semaine que je suis à Sigonce et donc je les commence tout à l'heure, là, à 14h30.
Vous avez déjà des prises de contact, donc ?
Oui, tout à fait. Oui, bah, ça, c'est le grand bénéfice d'être invité par une structure qui est une structure qui est déjà locale, donc avec quantité de relais, de gens que Evelyne peut connaître, etc. Et donc, Evelyne m'a énormément facilité le travail sur ce plan-là, c'est-à-dire qu'une fois fois qu'elle a su sur quoi je voulais travailler, elle m'a proposé quantité de personnes et de rencontres, en plus en m'expliquant un petit peu pourquoi elle me proposait ces personnes-là, en me déroulant un petit peu leur CV. Et donc c'est grâce à elle que là je vais faire ces premières séries d'entretiens.
Peut-être, Evelyne, vous pouvez nous en dire quelques mots de ce travail que vous avez réalisé en amont pour Arnaud Bertina.
C'était un travail de préparation du terrain, je dirais. Après, l'essentiel du travail, évidemment, c'est Arnaud qui le fait. Mais une fois que j'ai pensé avoir bien compris ce qu'il souhaitait faire, c'était relativement simple de réfléchir, d'en parler autour de moi et de réfléchir aux personnes susceptibles, effectivement, de répondre à ces attentes et à ces demandes. Donc j'ai essayé d'aller dans des directions assez différentes, à la fois des structures qui pouvaient exister, des associations, des personnalités qui étaient sur le territoire assez... capable de parler de leur travail ou de leurs idées, de tout ce qui les fait vivre et qui les motive. Donc c'était un travail très intéressant d'ailleurs, parce que du coup j'ai moi-même rencontré de fil en aiguille, en parlant avec une personne, me disait mais peut-être que tu devrais demander à tel autre, et du coup j'ai moi-même déjà pris du plaisir à ces contacts, puisque effectivement j'ai appelé toutes les personnes où je les ai rencontrées pour leur expliquer et leur dire qu'Arnaud les appellerait et verrait avec eux. Donc tout était préparé de cette façon-là.
Et puis c'est un spectre qui est large, hein, puisque ça va d'une femme qui est éleveuse jusqu'à un homme qui est guide, jusqu'à une structure sociale qui vient en aide aux familles les plus démunies sur le territoire, etc. Donc c'est très riche, quoi.
C'était ma question suivante, du coup. Vous faites les questions à plat, c'est très bien. C'est très bien comme ça. Oui, j'avais demandé justement quel type de profil avait été choisi, sans forcément citer les personnes, mais en tout cas, comment vous avez choisi, par quelle pertinence, en fait, point fort, vous avez choisi ces personnes. Vous aviez des exigences.
C'était comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui sur le territoire essayent de mettre en place un rapport plus doux à la vie, c'est-à-dire par exemple quelles sont les associations qui s'occupent des personnes en détresse sur le plan matériel, etc., et qui par exemple leur fournissent des produits alimentaires ou des vêtements ou etc. Ou alors quels sont les éleveurs qui essayent d'avoir le rapport le plus doux à la nature et aux bêtes qu'elles élèvent, etc. C'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que le monde est si dur et l'organisation économique du pays actuellement est si dure qu'il y a obligatoirement une quantité d'initiatives sur le plan local de gens qui essayent au contraire de contrebalancer cette dureté-là et qui essayent d'entretenir soit avec leurs voisins, leurs congénères, soit avec d'autres formes de vie, la nature, les animaux, un rapport plus doux. C'est ce que je veux mettre en résonance avec l'histoire de Jack London. Et vous savez, on est toujours surpris, c'est-à-dire on est tout le temps pris à un peu de vitesse par le réel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que samedi, on a fait une présentation rapide de la résidence au Café Lamandier à Sigons. Et donc, je me suis retrouvé à dire un tout petit peu ce que je voulais faire avec ce court-métrage autour de Jack London. Et il y a un homme qui est un éleveur, un jeune homme, je pense qu'il doit avoir 35 ans, qui est éleveur à Sigons. Et qui est venu se présenter en disant qu'il connaissait par cœur l'œuvre de Jack London, que ça faisait 2 ans qu'il travaillait à une bibliographie complète des écrits de Jack London, etc. Donc en fait, on est tout le temps pris de vitesse par le réel. C'est-à-dire, on imagine incroyable. Des choses et puis ensuite, en fait, elles nous sont livrées au centuple par la réalité. Mmh. Et voilà, ça, c'est des moments qui sont des moments incroyables parce que on a le sentiment d'apporter quelque chose, et en fait non, on ne fait que recevoir tout le temps.
C'est le propre du travail avec les gens sur le terrain.
Exactement, et puis c'est aussi le propre du travail artistique, hein, c'est-à-dire on essaye de canaliser des énergies dans une œuvre d'art, on essaye de canaliser des énergies et des désirs, et en fait ça nous revient au centuple.
Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve juste après. On écoute Altin Gun avec leur titre Yus Dak Basinda. We'll be right back. Et de retour en direct sur les ondes de Fréquence Mistral, nous sommes avec Evelyne Sein de l'association Désir de Lire et Arnaud Bertina qui est romancier et en résidence dans le cadre de cette association, invité par cette association. Donc cette résidence va donner lieu à un court métrage, regard croisé entre Jack London et des portraits de personnes qui habitent dans le pays de Cigon. C'est d'ailleurs Arnaud Bertina. Vous vouliez nous raconter une petite anecdote de nouveau.
Une autre anecdote, ouais, après celle de l'éleveur qui travaille à une bibliographie complète de Jack London. Je suis arrivé ici avec quelques livres de London que je voulais lire ou relire, et notamment un qui s'appelle L'île des lépreux. Sont 6 nouvelles sur sa découverte de Hawaï en 1908, je crois. Des nouvelles assez sidérantes parce que son regard sur Hawaï n'est pas du tout un regard exotique de touriste, etc. Au contraire, il voit tout de suite les dérives le scandale qu'est le colonialisme américain à Hawaï, et il voit aussi la maltraitance des malades de la lèpre, comment ils sont maltraités par les autorités américaines. Et donc j'arrive avec ce livre-là notamment. Et en fait, je me retrouve donc dans un logement qui a été trouvé par Désir de Lire, qui est dans Cigons, avec un voisin de palier, qui lui aussi est là de passage dans ce logement-là, et qui est maori. Et donc qui tout d'un coup peut me parler comme ça de la Nouvelle-Zélande et de quantité d'îles du Pacifique qu'il connaît, par lesquelles il est passé. Effectivement, il a tous les tatouages maoris visibles, etc. Ça fait 15 ans qu'il est en France maintenant, mais voilà. Donc on pense travailler sur quelque chose de complètement abracadabrant, exotique, bizarre, en disant mais qu'est-ce que je fais là avec Jack London, c'est quand même un peu saugrenu. Et non, en fait, j'arrive avec un livre et j'ai en face de moi quelqu'un qui peut me parler encore mieux que London lui-même de ces îles-là. Donc, vous voyez, franchement, dès qu'on est un peu attentif à ce qu'on vit, dès qu'on est un peu attentif aux gens qui nous entourent, on est tout le temps sidéré, quoi. C'est-à-dire, dans un mouchoir de poche, on peut retrouver le monde entier. Sigon, c'est un mouchoir de poche. Ouais. Et ben, voilà, en deux, trois coups de rencontre, en deux ou trois apéros, et ben, en fait, on est surpris.
Ce court-métrage, eh bien, les auditrices, auditeurs auront l'occasion de le voir si ils ou elles se rendent à cette sortie de résidence que vous allez proposer le 1er juillet à Sigons. Donc, peut-être quelques mots sur l'équipe aussi qui vous entoure autour de ce court-métrage. J'imagine que vous ne le faites pas tout seul. Il y aura aussi un comédien.
Oui, il y a un comédien qui s'appelle Julien Campagny, qui vient surtout du théâtre, enfin qui est surtout acteur au théâtre, mais qui écrit aussi un petit peu pour le théâtre, et qui, avec une troupe d'amis, une compagnie qui s'appelle le NTP, a le vent en poupe depuis le dernier festival d'Avignon, où ils ont été beaucoup applaudis et fêtés. Et puis une autre amie qui s'appelle Charlotte Pouche, qui est réalisatrice, qui a réalisé un documentaire notamment qui s'appelle « Des bobines et des hommes » sur la fermeture d'une filature à Roanne. Et voilà, ce sont des amis fidèles avec lesquels j'aime beaucoup travailler. Avec Julien, on a déjà fait deux spectacles. Il a adapté un de mes romans pour la scène. Et puis, avec Charlotte, on a déjà lancé des projets d'écriture ensemble. Et donc voilà, là, c'est vraiment sur la base de l'amitié, puisque c'est un court-métrage qu'on va faire comme ça, un petit peu en bricolant. Mais l'amitié déplace des montagnes. Donc, avec un peu de chance, on obtiendra quelque chose. C'est un tournage qui va durer 5 jours, à la fin du mois de mai. Mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un tournage qui se prépare longtemps en amont, multipliant les rencontres.
Vous avez une équipe technique ? Comment ça se passe ?
L'équipe technique, ça va être moi et moi.
Et votre téléphone ?
Alors non, là, on aura une vraie caméra, puisque si Charlotte fait le déplacement, c'est avec son matériel et ce sont des caméras et des micros professionnels.
Il y aura donc cette sortie de résidence le 1er juillet, mais il y a aussi d'autres dates qui sont prévues. C'est dans un petit peu longtemps, mais peut-être c'est bien déjà de les annoncer.
Oui, il y aura beaucoup de possibilités et d'occasions de rencontrer Arnaud Bertina sur notre territoire. Je ne vais pas te donner les dates, il vaut mieux aller les voir sur le site parce qu'il y en a beaucoup, mais par exemple, il y aura des rencontres en librairie, la librairie La Carline à Fort-Calquier, la librairie Le Bleu à Bannon, la librairie L'Arbousier à Lurs et la librairie de Filon-Page à Château-Arnoux. Il y aura probablement même un peu plus qu'une rencontre qui est en train de s'organiser à Château-Arnoux avec Priscilla et Elodie de la librairie de Filon-Page. Mmh. Il y aura des rencontres en médiathèque, à la médiathèque de Digne et à la médiathèque de Manosque. Il y aura une soirée à Revest-Saint-Martin, un petit village encore plus petit que Sigons, mais qui sait accueillir de manière remarquable aussi, et qui avait très envie que Carnot vienne passer une soirée avec eux.
Pour préciser, ces types de rencontres, c'est vous, Arnaud, qui venez parler de votre résidence, de votre travail. Comment ça se passe ?
Dans les librairies, ce sera probablement plus sur les derniers livres ouais. D'Arnaud. En librairie et en médiathèque, ça peut prendre la forme de lecture et échange, et ce sera beaucoup plus centré sur ce que Carnot a écrit effectivement récemment. Et il y a aussi un spectacle, une création qui se prépare avec un collectif qui s'appelle Et autre chose inutile.
Oui, bien sûr, on connaît
et
bien aussi sur
qui est en train de travailler sur les deux derniers livres d'Arnaud. Et bon, c'est une création en cours, donc je ne vais pas encore dire beaucoup, mais en tout cas, là, la date, c'est le 3 juin et ce sera en principe à l'URSS, ce sera donné.
Peut-être aussi rappeler votre site sur lequel on peut trouver ces différentes dates et différentes informations.
Voilà, toutes les informations. Passées, présentes et futures sont sur le site désirdelire.fr.
Et sur ce site, on peut aussi trouver une vidéo notamment d'une conférence que vous avez réalisée, Arnaud Bertina, à Sigons, sur le récit documentaire. Peut-être quelques mots sur cette vidéo pour donner aux auditrices, auditeurs qui nous écoutent l'envie d'aller la voir.
Oui, en fait, ça correspond à une invitation de l'année dernière, qui était déjà donc une invitation de Désir de Lire pour organiser une journée complète. Et j'avais à cœur d'essayer de décrire ce qu'est un récit documentaire, mais aussi par rapport à l'histoire littéraire, c'est-à-dire aujourd'hui, vous savez, il y a ce genre que souvent les journalistes appellent non-fiction, la non-fiction, mais ça c'est une appellation qui vient des États-Unis. En fait, quand on reparcourt l'histoire littéraire, même européenne, on se rend compte que dès le XVIIe siècle, il y a des textes qui relèvent comme ça un peu de ce genre-là, le récit documentaire, et que ça n'est pas une invention du tardif XXe siècle, quoi. Et donc j'avais eu envie de proposer ça à Désir de Lire, c'est-à-dire faire un peu l'histoire de ce genre-là et montrer quels en sont les enjeux en termes d'écriture, montrer que ça n'est pas à proprement parler du journalisme, que ça reste bien à l'intérieur de la sphère littéraire et que ça déplace des choses. Donc ça avait été une journée très vivante parce que ça avait ensuite tourné à l'échange, c'était pas juste un cours, on n'était pas à la fac, il y avait eu des échanges qui derrière avaient été vraiment très très intéressants. Et c'est le but de toutes les rencontres, hein. On peut fixer un programme pour une rencontre, mais en fait on espère toujours que le programme va être mis en déroute par les interventions des uns et des autres, quoi, que les gens s'autorisent à prendre la parole.
Et pour parler de cette journée, elle s'était terminée par un atelier qui avait été co-animé par Arnaud Bertina et Charlotte... Charlotte Guy, pardon. Enfin, on va parler des prénoms, on finit par oublier les noms. Donc Charlotte Guy est une éditrice, les éditions Sometimes, et c'est elle qui a édité ce petit livre qui s'appelle « Faire la vie ». Qui n'est pas un petit, qui est un grand livre, dans lequel justement se trouvent des photos des jeunes femmes qu'Arnaud a rencontrées au Congo. Et ces photos seront certainement exposées à un moment de la résidence d'Arnaud, probablement à Château Arnaud d'ailleurs, pour poursuivre. Voilà. C'était simplement pour insister sur le fait que ces journées, effectivement, il y a un moment où aussi l'auteur croise son travail avec une autre forme. Là, en l'occurrence, c'était comment éditer un livre photo, qu'est-ce qu'un livre photo avec des photos d'Arnaud.
Et pour la suite, eh bien, nous continuerons à relayer ces informations et annoncer les rendez-vous à venir, bien sûr, sur nos ondes. Merci Arnaud Bertina et merci Evelyne Sein d'être venue dans nos studios pour parler de ce beau travail de résidence. Merci.
Merci à vous. À
merci beaucoup.